de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Alors, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Poutine se rendra en Indonésie l'année prochaine, a déclaré Mahfoud MD. Selon le conseil indonésien des ulémas, les attitudes du vice-président concernant la question ouïghour sont vraies. En 2020, le ministre coordinateur de l'économie est optimiste. L'économie indonésienne augmentera de 5,3%. Pour atteindre le rang EODB 50, le Conseil de coordination des investissements met en synergie la facilité de faire des affaires. Le gouvernement d'Aceh met l'accent sur le développement du secteur du tourisme. Voici le journal complet. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfoud MD, a déclaré vendredi dernier à Jakarta que le président russe Vladimir Poutine se rendrait en Indonésie l'année prochaine. Le président Poutine se rendra en Indonésie dans le cadre de 70 ans de coopération diplomatique entre l'Indonésie et la Russie. Cela a été communiqué après avoir rencontré vendredi l'ambassadeur de Russie en Indonésie, Lyudmila Georgievna Voroviva, au bureau du ministre Mahfoud. Le plan de visite de Poutine attend la certitude du calendrier, car Poutine veut vraiment célébrer en Indonésie. Au cours de la réunion, ils ont également discuté de projets d'échange de visites entre le ministère de coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité et le président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Selon Mahfoud, les chances de visite entre les deux responsables sont une réunion de routine chaque année. Le secrétaire général du Conseil indonésien des ulémas, ou MUI, qui est également le président central de Muhammadiyah, Anwar Abbas, a déclaré que la ferme déclaration du vice-président Ma'ruf Amin appelait le gouvernement de la République populaire de Chine à être ouvert concernant les informations sur les violations présumées des droits de l'homme contre la minorité ethnique musulmane ouïghour dans la région du Xinjiang en Chine est une bonne étape. Anwar Abbas a dit à Radio République Indonésia samedi que pour cette raison, le public attendait un suivi de l'appel du vice-président afin que le gouvernement chinois puisse décrire les informations ouvertement sans être dissimulé. Le problème est la question des droits religieux, la liberté religieuse et le droit de tout être humain. Selon Anwar, le dialogue d'ouverture avec l'Indonésie, qui est un État islamique, serait très important à mener par le gouvernement chinois. Parce que des bonnes relations affecteront également la coopération dans tous les domaines. Une croissance économique de qualité devient l'objectif principal du travail du ministre de coordination économique en 2020. De plus, les défis économiques de l'année prochaine sont encore très lourds, tant du côté interne que du côté externe. Le ministère de coordination des affaires économiques a élaboré trois stratégies principales pour faire face aux défis et atteindre la croissance économique de qualité. la stratégie sous forme de renforcement de la balance commerciale, le renforcement de la demande intérieure et de la transformation structurelle. Avec cette stratégie, le gouvernement est optimiste que la croissance économique de l'Indonésie en 2020 atteindra 5,3%. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Airlangga Hartarto, lors de la présentation des perspectives économiques indonésiennes pour 2020 à Jakarta vendredi, a déclaré que vu les défis et les opportunités rencontrées l'année prochaine, l'économie indonésienne en 2020 pourrait croître de 5,3%. Cela est conforme à la stabilisation de l'économie mondiale et à la mise en œuvre de politiques de renforcement de l'économie indonésienne. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, et Prospera, partenariat Australie-Indonésie pour le développement économique, ont discuté de la facilité à essayer de créer des synergies entre le gouvernement et les acteurs commerciaux pour améliorer le classement de l'Indonésie, ou Ease of Doing Business, ou abrégé en EODB, au rang 50. Le haut fonctionnaire du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, Juliot, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré vendredi que le classement de l'Indonésie dans l'indice EODB étudié par la Banque mondiale au cours des deux dernières années est resté stagnant à la position 73 et resté à la traîne par rapport aux autres pays de l'ASEAN. Pour augmenter la croissance économique de l'Indonésie à plus de 6%, par rapport au taux forfaitaire actuel de 5%, l'Indonésie a besoin d'investissements pour croître plus de 32%. Ainsi, pour encourager l'amélioration, le gouvernement révisera les lois et règlements qui entravent l'investissement par le mécanisme de la loi Omnibus qui devrait être achevée en 2020. En outre, le président a également publié une instruction présidentielle numéro 7 de 2019 qui charge le chef du BKPM de coordonner les mesures correctives nécessaires pour améliorer le rang de EODB. À l'heure actuelle, les 15 excellents programmes sont développés par le gouvernement de la province d'Aceh. L'un d'entre eux est le développement du secteur du tourisme qui est intégré au développement des entreprises communautaires créatives. Le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iriansyah, lors de l'ouverture du forum d'accueil Aceh Musapat II à Jakarta samedi, a déclaré que l'opportunité du secteur du tourisme était très prometteuse car il y avait tellement d'attractions touristiques à Aceh, entre autres le tourisme de nature, le tourisme culturel, le tourisme artificiel, le patrimoine culturel, etc. Selon les données du Bureau de la culture et du tourisme d'Aceh, il y a au moins 797 destinations touristiques et 774 sites et héritages culturels répartis dans 23 régions Aceh. En plus du tourisme, Aceh possède également une variété d'arts culturels uniques tels que la danse, le coutume, la littérature, la peinture et les activités spirituelles qui sont si attrayants pour la communauté mondiale. Voilà les journaux d'aujourd'hui. Ensuite, la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport international Shamsuddin Noor ». Le président Joko Widodo a examiné et inauguré le nouveau terminal de l'aéroport international Shamsuddin Noor à la ville de Banjarbaru mercredi le 18 décembre 2019. Le président a admis qu'il était étonné après avoir vu le nouveau terminal de l'aéroport parce qu'il a une superficie de 77 000 m². C'est très éloigné par rapport à l'ancienne qui ne fait que 9 000 m². De plus, sa capacité passagère, qui était auparavant de 1,3 million de passagers par an, est désormais de 7 millions de passagers par an. Mais le chef de l'État a averti que la croissance des vols et des passagers de l'aéroport était plus élevée. Dans ces conditions, a déclaré le président, peut-être qu'au cours des 10 prochaines années, il devrait construire un terminal plus grand. le président Joko Widodo rappelle l'importance du développement des infrastructures pour un pays. Selon lui, à l'ère de l'intense concurrence interétatique, si l'Indonésie n'est pas en mesure de rivaliser avec d'autres pays, oubliez le rêve de devenir un pays développé. Pour cela, depuis que le président Jokowi a pris ses fonctions en 2014, il a continué de poursuivre le développement des infrastructures. Le gouvernement du président Jokowi a construit diverses infrastructures, telles que des routes à péage, des aéroports, des centrales électriques, des ports, dans des zones industrielles. Le président a révélé qu'après le développement des infrastructures, c'était le temps pour le gouvernement régional, des gouvernements de province ou bien des districts et de villes de procéder en reliant l'agriculture, la pêche, les petites centrales industrielles, les grandes zones industrielles aux zones touristiques. En connectant les infrastructures à ces différentes régions, le président espère que l'effet de la présence des infrastructures se fera également ressentir directement par la communauté. Il espérait que les infrastructures pourraient également être un déclencheur de la croissance économique locale, tandis que le gouverneur de Kalimantan du Sud, Sahbiri Nur, s'est dit très fier des résultats du développement du nouvel aéroport. Il espère que l'existence de l'aéroport international Shamsuddin Nur pourra stimuler la croissance économique de divers secteurs de la province du Kalimantan du Sud. Parallèlement au changement de statut en aéroport international, il espère que l'aéroport de Shamsuddin Nur obtiendra l'équipement nécessaire pour effectuer des vols internationaux qui ne lui appartiennent pas encore. En connectant le Kalimantan du Sud avec le monde international par l'aéroport Shamsuddin Nur, on garantit que l'économie du Kalimantan du Sud s'améliorera, que le secteur du tourisme et les investissements se développeront rapidement. Actuellement, le gouvernement travaille à la coopération aérienne avec plusieurs pays de destination, comme la Malaisie, Singapour et l'Arabie Saoudite. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 décembre. On commence par le 22 décembre 1928, le Congrès des femmes indonésiennes. Le premier Congrès des femmes indonésiennes s'est tenu à Yogyakarta, aux Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui Indonésie, du 22 au 25 décembre 1928. Le Congrès a réuni 30 organisations des femmes de 12 villes de Java et de Sumatra et visait à lutter pour les droits des femmes, en particulier dans le domaine de l'éducation et du mariage. Environ 1000 personnes étaient présentes à la réception d'ouverture tenue le 22 décembre 1928. Le 22 décembre 1953, à l'occasion du 25e anniversaire du Congrès, le président Sukarno a désigné la fête nationale des mères par le décret présidentiel numéro 306 de 1953. Depuis ce temps-là, on célèbre chaque 22 décembre la fête des mères en Indonésie. Le 22 décembre 1948, Syafruddin Prawiranegara a dirigé le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, ou PDRI, à Sumatra de l'Ouest. Le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, ou en Indonésie, Pemerintahan Darurat République Indonesia, ou abrégé en PDRI, est l'organisateur du gouvernement de la République d'Indonésie pour la période du 22 décembre 1948 au 13 juillet 1949, dirigé par Syafruddin Prawiranegara, également connu sous le nom de cabinet d'urgence. Peu de temps avant le leader indonésien de l'époque, le colonialisme des Pays-Bas a arrêté Sukarno et Hatta le 19 décembre 1948. Ils se sont rencontrés et ont donné mandat à Syafruddin Prawiranegara pour former un gouvernement intérimaire. Le 22 décembre 2018, le tsunami du détroit de la Sonde. Le 22 décembre 2018, un tsunami provoqué par l'éruption d'un Krakatau dans le détroit de la Sonde a frappé les zones côtières de Banten et Lampung en Indonésie. Au moins, il y avait 426 morts, 7202 blessés et 23 disparus en raison de cet incident. Selon l'Agence météorologique, climatologique et géophysique, le tsunami a été provoqué par des marées hautes et des glissements de terrain sous-marin en raison de l'éruption volcanique. L'Agence nationale de la gestion des catastrophes a déclaré que les dégâts matériels causés par le tsunami ont touché 556 logements, 9 hôtels, 60 stands de cuisine, 350 navires et bateaux ont été endommagés. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. C'était la chanson intitulée « Fou Fou Fa Fa » chantée par Ayushita. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur l'onde courte de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie. Voici mon Indonésie dont le titre est « Ironman 2020 » sera présent à Lombok. L'Ironman, ou la compétition internationale de triathlon, augmentera en Indonésie l'année prochaine. Non seulement à Bintan, dans l'archipel de Riau, le sport d'endurance humaine le plus difficile du monde sera présent à Lombok le 4 juillet 2020. Portant le titre d'Ironman Triathlon 70.3 Lombok 2020 de l'Indonésie, devient la célébration de l'Indonésie Sport and Event Management Co. et du gouvernement local. La course, qui implique trois sports différents, la natation, le vélo et la course à pied, ne propose pas seulement des championnats. De plus, les 60 meilleurs finissants ont le droit de participer au championnat du monde Ironman 70.3 2020 qui se déroulera à Taupo, Nouvelle-Zélande, du 28 au 29 novembre 2020. À Ironman 70.3 Lombok, il existe les catégories individuelles et relais. Le directeur exécutif de l'Ironman 70.3 de Lombok, Ari Sukirno, lors d'une conférence de presse à Jakarta mercredi le 17 décembre, a déclaré que le comité ciblait 1000 participants. Ce nombre comprend 40 équipes de relais, mais le comité espère que 1500 personnes y participeront. Selon le plan, le départ et l'arrivée de l'Ironman ou du Lombok Triathlon auront lieu à Holiday Resort Lombok, en commençant par un tour de natation de 1,9 km ou 1,2 mille dans la mer de Bali du Pirus, puis en parcourant 90,1 km en vélo à tout au long de la route Senggigi jusqu'à l'aéroport international de Lombok. Ensuite, on continue à la course à pied 21,1 km en deux tours. Ari Sukirno espère que cette course pourra être couronnée de succès la première année et battre le record de participants. Selon lui, à Bintan, on peut bien réussir, donc à Lombok, on réussira également jusqu'en deuxième, troisième année, etc. Et peut-être on doit ajouter d'autres destinations. On estime que l'impact de la microéconomie augmentera si cette course se réalise. On a estimé le chiffre d'affaires à plus de 50 milliards.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sunyi ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama, namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir
Voice of Indonesia.
Ku tak pernah merasa diriku sempurna dan ku hanya percaya ku akan menjagamu, menjadikan dirimu jadi bagian hidupku. Ku akan berikanmu segala yang terbaik dan
C'était la deuxième chanson intitulée Manis Manja, qui signifie mignon égaté, chantée par Bayu Risa. Nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous invitons à Banyuwangi pour une visite de la plage de Watu Dodol au sous-district de Kalipuro, la région de Banyuwangi, au croisement de la voie qui relie Banyuwangi et Situbondo. La zone touristique de la plage de Watu Dodol est l'entrée de la région de Banyuwangi depuis la région de Situbondo. Le Watu Dodol est un gros rocher noir très dur, dont la forme est unique. La partie supérieure est plus grande que la base. Sur le côté du sud, il y a des arbres moringa qui ajoutent à l'unicité de la pierre. La distance de la ville de Banyuwangi à ce lieu touristique est de 14 km au nord, ou environ 5 km du port de Ketapang. En plus de regarder le magnifique panorama sur la mer, le visiteur peut gravir la colline qui se trouve en face de la route. Sur cette colline, on a fourni un chemin pour les visiteurs. Sur la colline, les visiteurs peuvent regarder un panorama plus large et plus beau du détroit de Bali. On a également complété la plage de Watu Dodol avec un lieu de repos temporaire pour les automobilistes qui ont passé la route Situbondo-Banyuwangi. En outre, cette zone de tourisme dispose également de vastes parkings, de stands qui fournissent une nourriture typique de Banyuwangi, de magasins qui vendent des produits de première nécessité, des salles de bain pour les touristes qui jouent sur la plage et de locations de bateaux de pêche. La plage est assez ombragée grâce aux nombreux arbres, très confortables. En plus de la mer à l'est, ce lieu touristique est également directement bordé de collines et de forêts. Chers auditeurs, en japonais, Watu signifie pierre, tandis que Dodol signifie jenang. Selon la population locale, l'origine du nom de ce lieu touristique est, dans le passé, un guerrier du royaume de Blambangan, le royaume situé dans l'île la plus orientale de Java, apportait des fournitures de jada, un type de dodol. Dodol, c'est l'un des aliments typiques de l'Indonésie. Au moment de se reposer sur la plage, il a quitté le dodol qu'il emportait. C'est dodol qui s'est finalement transformé en Watu Dodol. Chers auditeurs, si vous êtes à Banyuwangi, visitez la beauté de la plage de Watu Dodol. Parce qu'en plus de la beauté des paysages, sur cette plage, les touristes peuvent également nager, car l'état de cette plage n'est pas dangereux pour la natation. Pour vous qui aimez la pêche, vous pouvez louer un petit bateau pour aller au milieu de la mer pour la pêche. Habituellement, il y aura un guide qui est également un transporteur de bateaux pour obtenir des spots avec beaucoup de poissons. Chers auditeurs, voilà la plage de Watu Dodol.
Hidup tanpamu menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya. Bagiku, tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Voice of Indonesia.
Kita bertemu berdua saling menatap malu. Terputar kembali memori kita di masa lalu.
berwarna.
Chers auditeurs, voilà la chanson de Midnight Quickie et Osvaldo Rio, dont le titre est Bersamamu Bahagia. La rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur, cette édition parle de Nusa Penida Bali, fait partie de la meilleure destination de routard du monde 2020. Hostel World a déclaré Nusa Penida, Klungkung, Bali comme la première destination des routards pour 2020. La plateforme de réservation en ligne d'auberge de jeunesse basée à Dublin en Irlande a révélé que les réservations d'hébergement à Nusa Penida avaient augmenté de 610% par rapport aux touristes britanniques au cours de l'année écoulée. C'est-à-dire, Nusa Penida est devenue la destination la plus recherchée des touristes britanniques au cours de l'année écoulée. Située au sud-est de Bali, Nusa Penida est une destination populaire pour les touristes nationaux et étrangers. Les informations ont été écrites sur le site de voyage mondial de Hostel World, qui est une référence pour les routards du monde entier. Vu du site mercredi dernier, le nom de Nusa Penida a été inclus dans la liste de 20 meilleures destinations pour les routards en 2020. La note a été publiée au début de décembre et pourrait être une recommandation de destination en particulier pour les routards. On a aussi mentionné dans l'article Nusa Penida comme la meilleure destination pour les routards en 2020. On a également mentionné le nom de la plage de Klungkung comme la principale attraction touristique. Nusa Penida propose des randonnées, de la plongée en apnée avec des mantas géantes et de la beauté du coucher du soleil. De plus, les étals proposent également des spécialités balinaises à petit prix pour les routards. Bon, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
C'était la dernière chanson intitulée Tentang Kita, qui signifie sur nous, chantée par Netra. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. La suite, nous continuons notre programme avec les courrières et musique. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrières et musique. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanson chantée par Sarwenda. Sarwenda, la chanteuse née à Jakarta le 29 août 1989, a lancé son dernier album en 2019. Sarwenda a sorti un album intitulé Aku Kamu Kita en août 2019. L'album contient 9 chansons, dont la chanson principale intitulée Aku Kamu Kita, qui signifie Moi, Toi, Nous. Le modèle de clip vidéo de cette chanson est son mari, Ruben Onsu, et leurs enfants, Talia et Tania. Cette chanson, créée par Ade Govinda, raconte quelqu'un qui tombe amoureux. Bon, comment va notre auditeur de l'Algérie, Nahmouchi Noiri, de BP1 54 bisectif 19000? Merci pour les rapports d'écoute que vous avez envoyés le 14 décembre. Je vais lire votre message. Bonjour et comment allez-vous, et ma belle station de Voice of Indonesia? Comme vous le savez, je suis un fidèle auditeur à votre station et je resterai, Inch'Allah, pour toujours. Si je vois des rapports d'écoute, j'ai écouté vos émissions par le biais du site internet. Vos programmes sont toujours bons. Quel plaisir de connaître l'Indonésie. J'ai eu de la chance de connaître des Indonésiens quand j'étais en Arabie Saoudite pour faire la Umrah. Ils sont très gentils, les Indonésiens. Je souhaiterais voir un jour ce beau pays. Bonne journée. Et meilleures salutations à notre ami en France, Paul Jamais, de Babé, Saint-Roux, Poupard, 952-90 Lille Adam. Et Bernard Grondin à Saint-Rouel-du-Pont, 97-427 Étincelles et les autres, Île de la Réunion, Océan Indien. Toujours en France pour passer le bonjour à Maurice Mercier, 537 rue François Giraud, de 69400 Villefrance, et 2514 rue Camille Saint-Saëns, 92400 Courbevoie France. Meilleures salutations à notre ami Franck Jacques, en rue des Églantiers, F494308. Nous allons dire bonjour à Sergi Giovanni via Sibari 40981 49, Messina Camaro Inférieur, Italie. Comment allez-vous, chers auditeurs? Je vous remercie d'être fidèles à Voice of Indonesia. C'est la fin de ce courrier. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé des bulletins de réception. C'était agréable de pouvoir m'entretenir avec vous d'aujourd'hui. Cette émission est maintenant terminée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et voici une chanson intitulée « Aku Kamu Kita » ou en français « Moi, toi et nous » chantée par Sarwenda.
Cuma melihat kurangnya dirimu, ku tak menilai apa lebihmu. Beruntung ada yang ingatkanku, Tuhan jagalah dia untukku. Hati mana yang selembut hatimu, hati mana yang semenerima itu. Beruntung ada yang ingatkanku, sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah. Pertahankan kita, tuntun aku bersamamu. Jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada aku, kamu dan kita. Hati mana yang selembut hatimu, hati mana yang semenerima itu. Beruntung ada yang sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah. Pertahankan kita, tuntun aku bersamamu. Jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.